Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, le Spinoza de la rue du marché, d'Isaac Bashevis-Sanger. Le Spinoza de la rue du marché est paru en 1957. La traduction française a été effectuée en 1966. Il s'agit d'un recueil de 10 nouvelles qui décrivent le monde familier du Szeged, de la communauté juive de Pologne, à la fois des villages et des quartiers des grandes villes. Le Spinoza de la rue du marché, titre éponyme du recueil, renvoie également à la première nouvelle qui relate la vie d'ermite du docteur Naun Fischelson, consacrée à l'exégèse de l'œuvre de Spinoza. La rencontre d'une voisine, aussi âgée que lui, lui permet tardivement de former un couple et de faire découvrir le plaisir à sa partenaire. Isaac Bashevis-Sanger prolonge la tradition disparue des conteurs yiddish. Ses récits mêlent indistinctement monde quotidien et merveilleux. L'auteur fait cohabiter la satire dans l'observation des mœurs juives contemporaines et le surnaturel à travers les fantômes, les démons et les esprits malins qui font de fréquentes apparitions dans ses fictions et jouent un rôle essentiel car ils permettent de ressusciter la culture hébraïque et d'imager les problèmes inhérents à la sexualité. Isaac Bashevis-Sanger est né en novembre 1903 à Leontsin, sur le territoire polonais, sous domination russe. Le père d'Isaac Sanger est rabbin et sa mère est elle-même fille de rabbin. La famille s'installe ensuite à Radzidim en 1907. Sanger passe la grande majorité de son enfance dans la rue, à Varsovie, principalement habitée par des juifs de conditions très modestes. Il a alors 4 ans. Son père devient à la fois leader spirituel et juge en prenant la présidence d'un tribunal rabbinique que l'auteur définit plus tard, dans une nouvelle, comme une sorte de tribunal qui serait à la fois prétoire, synagogue, salle d'études et bureau de psychanalyste. L'écrivain passe son adolescence à Varsovie ou dans la ville de Bilgorajd, non loin de Lublin, dans laquelle vit son grand-père. Il poursuit des études dans une école rabbinique, où il lui est dispensé une éducation traditionnelle et religieuse, il y apprend l'hébreu moderne. Joshua, son frère aîné, destiné à devenir rabbin, se révolte très tôt contre la foi paternelle. Et sur l'exemple de son frère, Isaac abandonne le rabbinat pour se consacrer à la littérature et au journalisme. Il adopte comme nom de plume Isaac Bashevis-Sanger, lui permettant de se distinguer de celui de son frère, Israël Joshua Sanger. Si ses ouvrages de jeunesse ont été rédigés en hébreu, il fait vite le choix d'écrire en yiddish, sa langue maternelle. Devant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne et la montée du climat antisémite en Pologne, il quitte l'Europe pour les États-Unis. Les premières années de Sanger aux États-Unis sont difficiles. Déraciné, il éprouve des difficultés à s'adapter au mode de vie américain. En 1937, il rencontre et épouse Alma Heidmann, une juive originaire de Munich. Ce mariage durera jusqu'à sa mort. En février 1944, son frère Joshua Sanger meurt subitement et Moshe, son frère cadet, meurt à Nurs vers 1945, après avoir été déporté avec sa mère et son épouse dans le sud du Kazakhstan. En 1943, Isaac Sanger obtient la nationalité américaine. Durant sa carrière, il publie 18 romans, 14 livres pour enfants et plusieurs recueils de nouvelles. Son œuvre romanesque, extrêmement riche, puise sa matière dans la Pologne d'antan, l'histoire du peuple juif, le folklore askénaze, la mythologie hébraïque, l'exégèse biblique, les souvenirs d'enfance et dans une moindre mesure l'expérience américaine. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1978 pour son art de conteur enthousiaste qui prend racine dans la culture et les traditions judéo-polonaises et ressuscite l'universalité de la condition humaine. À la fin de sa vie, Isaac Singer s'affaiblit beaucoup et souffre d'une maladie de la mémoire, un comble pour lui qui a fait de la mémoire son instrument littéraire. Il meurt le 24 juillet 1991 à Surfside, près de Miami, des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 87 ans. La destruction de Khrechtchev. 3. Les termes du contrat de mariage. Dès que Lise eut 15 ans, on commença à se demander qui elle épouserait. Shifra Tamar était malade et ses relations avec Red Bunin devenaient tendues. Aussi ce dernier décida-t-il de discuter directement avec sa fille. Dès qu'il aborda le sujet, Lise fit sa timide et répondit qu'elle accepterait ce que son père jugeait le mieux. « Tu as deux prétendants possibles, » dit-il pendant une de leurs conversations. « Le premier est un jeune homme issu d'une très riche famille de Lublin, mais il n'est pas instruit du tout. L'autre vient de Varsovie, et il paraît que c'est un vrai prodige. Toutefois, je dois te prévenir qu'il n'a pas un sou. Maintenant, réponds-moi, ma fille. La décision t'appartient. Lequel préfères-tu ?»« Oh, l'argent, » dit Lise avec mépris. « Quelle valeur a-t-il ? L'argent, on peut le perdre. L'instruction, non. » Et elle baissa les yeux. « Donc, si je comprends bien, tu préfères le garçon de Varsovie ?» demanda Red Bunin en caressant sa longue barbe noire. « Père, vous savez mieux que moi ?» chuchota Lise. « Une chose encore qu'il faut que je te dise, le jeune homme riche est très beau, grand, les cheveux blonds. L'érudit, lui, est très petit. Il a au moins une tête de moins que toi. » Lise empoigna ses deux tresses, et son visage s'empourpra, puis pâlit brusquement. Elle se mordit les lèvres. « Eh bien, ma fille, que décides-tu » interrogea Red Bunin. « N'aie pas peur de parler. » Lise se mit à bégayer, et ses genoux tremblèrent, tant elle avait honte. « Où est-il » dit-elle. « Je veux dire, que fait-il ? Le jeune homme de Varsovie ? Il est orphelin, Dieu nous préserve, et vit actuellement à la yeshiva de Yusmir. » On m'a raconté qu'il savait tout le Talmud par cœur et qu'il étudie aussi la philosophie et la Kabbale. Il paraît qu'il a déjà écrit un commentaire sur Maïmonide. « Ah !» murmura Lise. « Cela signifie-t-il que c'est lui que tu veux ?»« Seulement si vous approuvez ce choix, père. » Elle se couvrit le visage des deux mains et sortit de la pièce en courant. Red Bunin la suivit des yeux. Elle l'enchantait par sa beauté, sa modestie, son intelligence. Elle était plus proche de lui que de sa mère, et bien que déjà grande, venait se blottir contre lui et jouer avec sa barbe. Le vendredi, avant qu'il ne se rende au bain rituel, elle lui préparait une chemise propre, et, à son retour, avant l'allumage des bougies, lui servait un morceau de gâteau tout frais et de la compote de prunes. Il ne l'entendait jamais rire d'une façon stupide comme les autres filles, et elle ne marchait jamais pieds nus en sa présence. Après le repas du Shabbat, quand il faisait un petit somme, elle allait sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller. S'il tombait malade, elle posait sa main sur son front pour voir s'il avait de la fièvre et lui apportait toutes sortes de remèdes et de friandises. Plus d'une fois, il s'était dit qu'il enviait l'heureux homme qu'il aurait pour femme. Quelques jours plus tard, les habitants de Khrechtchev apprirent que le futur époux de Lise venait d'arriver. Il avait voyagé en carriole tout seul et s'était installé chez Rabbi Hoser. On fut surpris de découvrir un garçon maigrichon, petit, les papillotes noires en désordre, le visage blême et le menton pointu à peine recouvert de quelques touffes de poils. Son long caftan lui battait les chevilles. Il marchait courbé en deux et tellement vite qu'on aurait dit qu'il ne savait pas où il allait. Les jeunes filles se bousculaient aux fenêtres pour le voir passer. Quand il se rendit à la maison d'études, Les hommes se levèrent pour l'accueillir, et il commença aussitôt à disserter avec beaucoup d'intelligence. Il n'y avait pas de doute, ce garçon était un authentique citadin. « Eh bien, vous avez là une bien jolie ville, » observa-t-il. « Personne ne prétend que Kerchev ressemble à Varsovie, » lui répondit quelqu'un. Le jeune citadin sourit. « Un coin en vaut un autre, » fit-il remarquer. « Une ville est toujours une ville. » Après quoi, il se mit à citer abondamment le Talmud de Babylone et celui de Jérusalem. Puis quand il eut fini, régala l'assistance de nouvelles sur ce qui se passait dans le vaste monde. Il ne connaissait pas personnellement Rachvili, mais il l'avait vu, de même qu'un disciple de Sabbatai Zvi, le faux messie. Il avait rencontré un juif venu de Suse, l'ancienne capitale de la Perse, et un autre qui s'était converti et étudiait le Talmud en secret. Comme si cela ne suffisait pas, il commença à poser à l'assemblée des devinettes très difficiles, puis quand il en eut assez, s'amusa à répéter des anecdotes sur Rabbi Hachel. Il trouva le moyen d'informer ses auditeurs qu'il savait jouer aux échecs, peindre des fresques en se servant des 12 signes du zodiaque et écrire des vers en hébreu qu'on pouvait lire dans les deux sens et qui, de toute façon, voulaient toujours dire la même chose. Ce n'était pas tout. En plus du reste, ce jeune prodige étudiait la philosophie et la kabbale, se passionnait pour les mathématiques et la mystique au point de savoir calculer les fractions qu'on trouve dans le traité des Kilaïm. Naturellement, il avait jeté un coup d'œil au Zohar, à l'arbre de vie, et il connaissait par cœur le guide des égarés. À son arrivée à Kreshev, on aurait dit un mendiant, mais en quelques jours, Red Bunen le fit équiper d'un caftan et de souliers neufs, de bas blancs, et lui offrit une montre en or. Après quoi, le jeune homme se peigna la barbichette et les papillotes. Ce n'est qu'au moment de la signature du contrat que Lise vit son fiancé. Mais elle savait déjà qu'il était très cultivé et qu'elle se réjouissait de l'avoir choisi plutôt que le riche jeune homme de Lublin. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.